Nous lisons dans Exode au chapitre 1er. Exode chapitre 1er. Nous sommes en Égypte où le peuple d'Israël est en captivité, en prison, à ciel ouvert en quelque sorte. Il est écrit au verset 8. Exode chapitre 1er, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shiphra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Donc les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, et à un moment, Monsieur le Pharaon, le roi d'Égypte, a peur des enfants d'Israël et commence à les faire souffrir pour diminuer leur nombre, pour les tuer, pour les empêcher d'évoluer. Et il est écrit qu'il faisait ça avec cruauté. Il leur donnait des servitudes, des travaux pénibles. Ils souffraient beaucoup. Mais malgré ça, il n'arrivait pas à les éliminer. Alors il a décidé de tuer tous les premiers-nés, tous les enfants mâles. Il a donné l'ordre aux sages-femmes, allez tuez-les. Les sages-femmes ont dit non, on ne peut pas faire ça. Alors il a donné l'ordre aux Égyptiens carrément, globalement, allez tuez-les tous. Alors, bien-aimés, imaginez l'importance d'un enfant. Un enfant, c'est précieux. C'est mignon, c'est innocent. Même parfois, les plus méchants n'arrivent pas à s'en prendre aux enfants. Mais là, on dit carrément, il faut tuer tous les enfants mâles qui vont naître. Et quelle douleur pour les enfants d'Israël. Vous savez, quand on en arrive à cela, à ce que ton enfant soit pris pour aller être allé tuer, et toi tu regardes, ça veut dire qu'on t'a déshumanisé. Tu n'es plus un humain, parce qu'un humain normal doit résister, doit dire non, quitte à ce qu'on le tue. Mais là, il laissait faire. Donc les enfants d'Israël, on les déshumanisait, donc on les a amenés au point le plus extrême du mal, du péché, de la dégénérescence. Commencez à prendre vos enfants, vous ne faites rien. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est la même souffrance qu'on connaît sur la terre. À cause du péché, le diable harcèle les humains. Aujourd'hui, on arrive à changer de sexe. Donc les humains sont déshumanisés. Aujourd'hui, on voit à la télé l'homosexualité ouverte. Donc on voit des gens qu'on appelle transgenres animer des émissions. Et l'homme regarde, il dit rien. C'est l'objectif du diable, c'est détruire et déshumaniser l'homme. Et il n'y a pas que ça, je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a atteint le niveau maximum. C'est comme à l'époque, le niveau maximum c'était de tuer les enfants. Mais il y avait déjà de la souffrance, il y avait déjà la servitude. Bien aimé, les maladies qu'on a aujourd'hui, des gens qui meurent à 28 ans, leucémie, des gens qui meurent à 40 ans, on apprend des amis qui meurent, crise cardiaque, rupture d'anévrisme. Les humains sont accablés. Le comportement des jeunes aujourd'hui, qui se mettent à 10 pour taper un autre, et ils filment ça. L'homme est déshumanisé. Comment tu peux filmer un lynchage comme ça? Quelqu'un qui est seul face à 12 personnes, on le fracasse la tête, et toi tu filmes. Tu n'interviens pas. C'est ça le but du diable, nous tuer. S'il ne peut pas nous tuer physiquement, il va nous tuer dans le cœur, dans l'âme. Donc vous imaginez qu'on prenne les enfants. Donc quand on entend qu'un enfant pleure, un enfant est né, on vient chez toi, on prend ton enfant. Et toi tu laisses faire. Mais quand on part avec ton enfant, toi tu ne vis plus. Tu es mort. On a pris ton enfant, tu n'as rien fait, tu es mort. Le diable veut nous tuer. Comme Pharaon voulait tuer les enfants d'Israël, de toutes sortes de manières, que ce soit par l'âme, que ce soit par le physique, que ce soit par le boulot, la servitude. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à se battre pour avoir le CDI. Ils sortent des griffes. Vous savez, nous on a l'habitude de blaguer pour tout et pour rien, mais j'ai remarqué qu'il fallait pas blaguer sur le boulot de quelqu'un avec les collègues. Donc, la personne, dès que tu fais une blague dans le sens négatif, donc la personne a l'impression que son boulot est mis en jeu. Il ne faut surtout pas dire qu'il y a eu une erreur. Il ne faut surtout pas. Parce que la personne a l'impression que c'est fini pour lui. L'homme est déshumanisé. Lorsqu'on voit, bien aimé, l'augmentation de tout ce qui concerne, on a même fait une salle de shooting, donc tout ce qui concerne prendre de la drogue à tous les niveaux, dans les sports, les avocats, les politiciens. L'homme est réduit à rien. Le diable veut tuer l'homme. Il est jaloux de l'homme parce que Dieu aime l'homme. Dieu l'a chassé depuis longtemps du jardin d'Éden. Et Dieu nous donne l'exemple des enfants d'Israël pour que nous comprenions ce qui se passe. Ils étaient abattus, maltraités. Et Dieu pourtant est bon. Quand on a commencé à tuer les enfants, Dieu a dit stop. Ça doit s'arrêter. C'est comme ça que, bien aimé, bientôt, le Seigneur dira aussi stop. Parce que là, de plus en plus, l'homme n'est plus humain. Vous savez, nous, quand on était petits, les parents disaient, surtout la maman, je devrais quitter votre père, mais je reste à cause de mes enfants. Mais aujourd'hui, les gens divorcent tranquillement, ne s'inquiétant pas du tout du sort des enfants, des petits-enfants. Je ne dis pas que les gens ne souffraient pas quand ils divorçaient. Je dis tout simplement, il y a des innocents dans l'affaire. Quand nous, on était petits, les gens pouvaient se sacrifier pour ces innocents-là. Aujourd'hui, personne ne veut se sacrifier. C'est la vie de chacun. Et on voit dans les écoles, il y a même nos enfants qui nous racontent comment certains de leurs collègues souffrent de ne pas voir leur père ou leur mère. Parfois, la maîtresse ne sait pas à qui demander le cahier de texte. Ça fait mal. Ça, c'est la méchanceté du diable. C'est le péché que nous avons commis par Adam qui lui donne cette autorisation-là, ce droit-là de nous maltraiter ainsi. Ça ne nous fait pas plaisir de voir cela. Il y a des gens que nous avons rencontrés qui nous ont dit qu'ils étaient partis dans un camping en Italie. Et il y a un petit de 8 ans qui est venu le voir pour dire, mais moi ça fait des années, vous venez de France? Oh oui, mais moi ça fait des années que mon père il vit en France, je le vois pas. Un petit de 8 ans qui vient voir des étrangers pour exprimer sa douleur. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Le monde est mauvais, le monde se détruit. Et quand Dieu a vu que on tuait les enfants, on déshumanisait à ce point l'homme, il a dit non, ça suffit. Ça suffit. Il est écrit au chapitre 2, nous continuons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Mais rien ne va lui arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Donc elle savait que c'est un enfant des Hébreux. Qui a donné l'ordre qu'on tue les enfants? C'est son propre père, le Pharaon. Mais, suivons. C'est un enfant des Hébreux. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. » La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon et elle fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le diable, à travers Pharaon, commence maintenant à tuer les enfants. Maintenant, il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Les enfants que lui tuait, Dieu allait utiliser un enfant pour le vaincre lui-même. Cet enfant-là s'appelle Moïse. Il est écrit que quand Moïse naît, sa mère voit qu'il était beau. Je ne pense pas que c'est la beauté physique, parce que quand on est dans la maternité, tous les enfants qui naissent, les infirmières disent « il est beau ». Donc, je pense que sa mère a vu qu'il était glorieux. Ce qu'on dit « il est beau » là, en réalité, il était glorieux. Et ils se sont dit, celui-là, on ne tue pas. On ne le laisse pas partir. Le processus du salut de Dieu a commencé à se manifester. Dieu a eu pitié. Il a dit, maintenant, c'est fini. Il envoie Moïse et on n'arrive pas à le tuer. Parce que la gloire de Dieu était sur lui. Moïse est pris même par son ennemi juré, parce que c'est Pharaon qui avait demandé qu'on le tue, qu'on tue les enfants. Mais c'est la fille du Pharaon qui prend Moïse. Mais on ne pouvait rien faire parce que Dieu a décidé de sauver. Et plus tard, nous connaissons l'histoire, Moïse va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Moïse a été le sauveur de l'époque. Il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Pharaon a voulu résister. Moïse l'a vaincu par les miracles de la puissance de Dieu. Mais pour que Moïse sorte les enfants d'Israël, il fallait que les enfants d'Israël en aient marre d'être en Égypte. Parce que malgré les souffrances, je veux nous dire, malgré les souffrances que vivaient les enfants d'Israël, ils aimaient certains côtés de l'Égypte. La viande, les fêtes, beaucoup d'autres choses comme ça. Et malgré les souffrances que nous vivons sur terre, il y a des gens qui aiment quand même la terre. C'est pourquoi ils font des projets d'acheter ceci, d'acheter ça. Ils aiment la terre. Et le salut traîne à cause de ça. Dieu, vous pouvez sauver les enfants d'Israël depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais il voyait bien que ils aimaient quand même l'Égypte malgré la servitude, malgré les souffrances. C'est ainsi que nous aussi, Dieu peut faire, peut venir aujourd'hui pour nous amener. Mais il voit bien qu'il y a des gens qui aiment la terre. Et à quoi ça sert? Il faut d'abord qu'ils en aient marre. C'est pourquoi il nous humilie. Il laisse Satan faire ce qu'il a à faire. Voir des présentateurs transgenres à la télé. Il nous humilie, dit voilà votre terre sur laquelle, à laquelle vous vous accrochez, voilà. Tu vas passer dans les rues, moi un jour, je suis arrêté à un feu rouge. J'ai vu deux hommes dans une voiture s'embrasser. J'ai failli crier. C'est l'humiliation. Voilà votre terre. Vous voulez toujours de cette terre-là. Vous faites tous vos projets par rapport à la terre. Moi, je vous ai préparé le ciel. Et ça traîne à cause de ça. Nous sommes humiliés. Qu'on fasse une salle pour se droguer dans un hôpital à Paris. La salle de shoot se trouve dans un hôpital. L'hôpital sert à guérir les gens. Maintenant, dans l'hôpital, on va se droguer officiellement. Et on ne te demande même pas, je crois, la carte d'identité. Tu viens, tu expliques que tu veux te droguer, on te donne les instruments, tu te drogues. On est humilié. Et ça se passe devant nous. C'est pour nous dire, la terre n'est pas bonne. Changez de mentalité. Commencez à construire l'éternité. Commencez à préparer l'éternité. Bien-aimé, quand je vois au boulot des gens qui passent de cigarette normale à cigarette électronique, faire des va-et-vient, j'ai pitié. Pendant qu'il pleut, vous savez qu'on a dit, il pleut, il fait froid. Tu vois des gens à 10h moins le quart, manteau, parapluie, ils sont en train de fumer. Je dis, mais un petit bout d'herbe rassemblé, ça te rend toi l'esclave, un homme fort, une femme belle, voilà, riche parfois, mais tu es esclave de ça. Et hier, une sœur me disait, mais puisque... La sœur Céline, elle disait, mais ses collègues à la pharmacie, ils fument eux-mêmes, mais quand les gens viennent acheter des médicaments, ils disent, il ne faut pas fumer, ce n'est pas bon, ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que ces gens-là sont conscients que ce n'est pas bon, mais ils sont esclaves. C'est l'humiliation. Dieu nous humilie pour dire, voilà ce que vous êtes. Ce n'est pas bon d'être incapable de décider de son avenir. Parce que ces gens-là ne sont plus capables de décider de leur avenir. Parce qu'ils témoignent que la cigarette est mauvaise, mais ils continuent à la fumer. C'est des esclaves. C'est ce qu'étaient devenus les enfants d'Israël. Mais malgré tout, il y a des côtés d'Égypte qu'ils aimaient encore. Et ça a traîné. Dieu a laissé traîner. Malgré tout, ce que nous vivons là, il y a des gens encore qui aiment la terre, qui ont encore des projets malgré ce qu'on entend. On entend que bientôt une troisième guerre mondiale va commencer. Mais il y a toujours des gens qui continuent à aimer la terre, à faire des projets selon la terre. Alors que quand il y aura cette fois-ci la troisième guerre mondiale, elle sera nucléaire. Ça veut dire que si une bombe tombe à Paris, Rouen est affecté. Ce n'est pas une histoire de... maison ou de ville, c'est une histoire de pays. Quand une bombe nucléaire tombe dans un pays, tout le pays est affecté. C'est le moment de dire
On en a marre, Seigneur, sauve-nous. C'est le moment de dire, nous voulons le salut du Seigneur. Le salut, ça ne veut pas dire seulement être sauvé sur un papier. C'est la grandeur de Dieu qui se manifeste, le royaume de Dieu qui se manifeste pleinement pour sauver le maximum les gens qui ne sont pas encore sauvés et que nous tous, à la queue leu-leu, on s'en aille au ciel. C'est ça le salut de Dieu. Moïse a sorti les enfants d'Israël d'Égypte avec puissance parce que c'était Dieu qui était descendu par lui. Nous lisons maintenant Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Amen. Alors, des siècles plus tard, après avoir donné l'exemple de salut par Moïse pour un peuple et un salut physique, parce que c'est un déplacement physique qui les amène dans la terre promise, Dieu vient maintenant sauver intégralement l'homme par un salut spirituel, physique, un salut total. Et ce, par son propre fils Jésus. Vous savez, quand est-ce que Moïse est devenu le sauveur d'Israël? Et quand est-ce qu'il est devenu le sauveur d'Israël? Ce n'est pas quand il a eu 80 ans et qu'il est venu le sauver. Moïse était sauveur à la naissance. La preuve, c'est que quand il est né, on n'a pas pu le toucher. Donc, dès sa naissance, c'était le sauveur. Parce que le plan de Dieu, personne ne peut toucher au plan de Dieu. Dès sa naissance, Moïse naît avec gloire. Et personne ne peut le toucher. Il était sauveur, bébé, mais sauveur. Et on voit la comparaison avec Jésus. Jésus, bébé, les mages sont venus l'adorer. De loin, dès sa naissance, on dit que c'est le sauveur. Les anges disent, un sauveur vous est né. Pourquoi ils n'ont pas dit le sauveur? C'est un sauveur parce qu'il y a eu déjà un autre sauveur autrefois. Il y a eu Moïse, il y a eu les David, il y a eu des sauveurs. Mais ils disent, il y a un sauveur maintenant qui vous est né. Mais cette fois-ci, ce sauveur-là, c'est le Seigneur lui-même. Donc Dieu est descendu sur terre maintenant lui-même pour sauver parce que c'est pourquoi les écrivains de la Bible appellent notre époque, donc dès que Jésus arrive, ils appellent ça la fin des temps. Aujourd'hui, nous attendons la fin du monde, mais la fin des temps commence dès que Jésus arrive parce que c'est maintenant la question du salut total de l'homme qui va être réglée. C'est cela, bien-aimé. Et Jésus vient nous sauver de cette souffrance dont nous sommes accablés, du péché dont nous sommes accablés. Tout ce que j'ai cité, Jésus vient nous sauver de cela. Qui peut me dire aujourd'hui, parce que beaucoup ne comprennent pas, qui peut me dire aujourd'hui qu'il ne souffre pas? Qui peut me dire aujourd'hui qu'il est à l'aise totalement sur terre? Ah non, on ne peut pas être à l'aise quand on voit des guerres partout. Dernièrement, l'Arabie Saoudite a envoyé une bombe au Yémen dans un deuil. C'est-à-dire que les gens pleuraient déjà un mort et ils reçoivent une bombe. Plus de 140 morts. Qui peut être à l'aise dans ces conditions-là? Qui peut être à l'aise quand tous les jours, en Afrique, en Asie, il y a des guerres, on tue des enfants, on viole, en Syrie, il y a des bombes. Qui peut être à l'aise quand on sait que les gens qui font les réunions de paix, c'est les mêmes qui font la guerre avec d'autres manteaux. Et on sait qu'ils mentent et ils sont en face de toi. Tu ne peux rien faire. Qui peut être à l'aise? Les gens qui prétendent être à l'aise sont aveugles. Ils ne veulent pas reconnaître que ça ne va pas sur la terre. Ça ne va pas sur la terre. Et au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Dieu ne sauvera que ceux qui reconnaissent que ça ne va pas. Au fond de toi, tu sais que ça ne va pas. Mais les anges ont dit quoi? Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, il vous est né un sauveur. Mais cette fois-ci, ce sauveur-là, c'est le Seigneur lui-même. La différence, c'est que Moïse n'était qu'un homme. Mais là, c'est le Seigneur qui vient du ciel. Il descend sauver. Donc, il n'y aura pas d'erreur de salut. Il n'y aura pas de correction à faire. Ça sera un salut total. C'est ce que le Seigneur est venu maintenant faire sur la terre. Donner un salut total. Mais il faut que nous reconnaissions que ça ne va pas. Il faut que nous reconnaissions que la terre n'est pas bonne pour nous. Il faut que nous reconnaissions que le péché nous détruit. Même si tu es millionnaire, bien-aimé, Steve Jobs, le propriétaire d'Apple, il était milliardaire. Milliardaire et, vous savez, c'est que les gens courent à iPhone 7, iPhone 6, c'est sorti, mais ils courent après. Mais lui, il pouvait s'en fabriquer un pour lui tout seul parce que c'était à lui. C'était à lui. Mais il n'était pas bien. Comment vous expliquez-vous qu'un homme qui est millionnaire, qui est le footballeur le plus aimé de la terre, aujourd'hui, en activité, puisse se tatouer tout le bras comme ça, comme Messi, il s'appelle Lionel Messi. J'ai vu hier une photo, il est tatoué presque tout le bras. Il est malheureux, il n'est pas bien. Comment dans le vide, tu peux venir, tu te tatoues tout un bras, ton bras devient rouge, bleu, avec plusieurs couleurs, comme un lézard un peu, enfin, le lézard même c'est plus propre, mais comme un serpent, voilà. Certains serpents ont plusieurs couleurs. Comment d'un coup, c'est que tu es malheureux? Qui peut dire qu'il ne souffre pas? Tout le monde souffre. Moi, je souffre de savoir que un après-midi va finir. Et vous savez, là, il fait beau, soleil. Hier, on avait concert dans un endroit où, quand vous regardez la verdure, vous avez l'impression que c'est la moquette. C'est un tapis vivant, une belle moquette. Mais il faisait froid, tu ne peux pas sortir là. Moi, je dis, c'est pas agréable la terre. Une moquette comme ça, on ne peut pas en profiter, il fait froid. Et il pleuvait un tout petit peu. Qui peut être à l'aise? J'ai fait le voyage Afrique du Sud, Zurich, bien aimé, de Johannesburg jusqu'au Congo. Il a fait des mouvements dans l'avion, donc disons environ 3-4 heures. J'ai dit, mais quand tu descends, tu transpires. Je n'ai même pas mangé. Qui peut être
à l'aise sur la terre. Voyez comment on se moque de François Hollande à la télé. N'importe qui prend le micro, il y a même des gens qui disent « François Hollande contre un canard, le canard passe ». Mais bien aimé, toi tu es le président, il paraît qu'il passe son temps devant BFM TV. Donc ça veut dire qu'il écoute tout ça. Quelqu'un qui vient, n'importe qui, ah lui devant un canard, le canard passe. Donc tu es là. Tu t'imagines aussi que tes enfants suivent aussi. Qu'on dit que leur père, face à un canard, le canard gagne. Qui peut être à l'aise sur terre? Personne. J'insiste, parce qu'il y a des gens, quand on va parler de salut, ils pensent que, moi, je suis sauvé, c'est bon. Mais non. Le salut, ce n'est pas seulement le ticket que toi tu reçois pour aller au ciel. Le salut, c'est la nature de Dieu qui vient sur terre pour sauver. Dieu dit, cette fois-ci, moi-même, je suis venu. Par Jésus. Et Jésus, quand il s'en va, il dit, je vous envoie un autre sauveur. C'est le Saint-Esprit. On sera ensemble, moi et lui avec vous. Donc le salut, c'est entrer dans une vie du ciel où tu commences à sauver d'autres personnes. Parce que tu veux voir, le salut, c'est la paix, la joie. C'est ce qu'il est écrit dans Romains 14, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Donc tu vas vouloir créer la paix, la joie. Mais cette joie, cette paix vient lorsque Jésus descend dans la vie de quelqu'un. Et là, tu commences à contempler le salut. Quand Siméon a vu Jésus, il a dit, j'ai vu le salut de Dieu. Donc nous aussi, nous avons besoin de voir Jésus dans l'autre pour voir le salut de Dieu, dire, je peux me reposer, Jésus est là. Le salut, ce n'est pas juste un ticket que tu reçois et tu attends d'aller au ciel. Non, c'est une vie parce que le monde est rempli de trop de souffrances. Il n'y a que le salut de Dieu qui peut nous consoler. Comme Richard Rembrandt, il était en prison, dans une prison, une salle de 100 personnes, non de 20 personnes plutôt. Ils étaient à 100 dans une salle de 20 personnes. C'était la galère. Mais quand les gens écoutaient l'évangile, ils se convertissaient. Ce qui fait que quand Dieu a sorti Richard Rembrandt de prison, il a dit, Seigneur, ça fait un moment que tu m'as sorti de prison. Mais là, je vais à l'église. Tout le monde est bien. Mais je ne vois pas ton salut. Les gens viennent, ils entrent, ils sortent. Il n'y a pas de vie. Moi, je préfère retourner en prison. Là, je voyais des gens se convertir. Je voyais ton salut. Vous savez, on a besoin de ce salut pour vivre. Ce n'est pas un ticket seulement. C'est une réalité. Tu vis, tu vois. Donc, je me souviens d'un épisode où tellement Richard Rembrandt il parlait du Seigneur, il changeait les gens. À un moment, il a attrapé une maladie. On a emmené dans une chambre qu'on appelle la chambre de la mort. C'est-à-dire quand on te met là-bas, ton cas est irrécupérable. Tu vas certainement mourir. Et il y avait d'autres prisonniers avec lui. Il a prêché la parole dans la chambre de la mort. Tout le monde s'est converti. Et un jour, on a envoyé un cadeau de 2 sucres à l'un d'entre eux. Je peux vous dire que ça faisait des années qu'ils avaient vu la couleur du sucre. Et le goût, n'en parlons pas. Ça faisait parce qu'eux, ils mangeaient les restes de ce qu'on donnait aux cochons. On donne aux cochons des choses, le reste, on donne aux prisonniers. On chauffe ça, on leur donne. Et on envoie à un prisonnier de la chambre de la mort 2 morceaux de sucre. Mais lui dit, mais moi je suis mourant. Il y a un tel qui est un peu plus fort que moi, je lui donne le 2 morceaux de sucre. Celui qui était un peu plus fort, il dit, mais moi je suis un peu plus fort. Je vais donner à celui qui est un peu plus faible. Et les 2 morceaux de sucre ont tourné comme ça pendant 2 mois. L'amour de Dieu était tellement grand que chacun pensait à l'autre. Alors quand il y a un tel amour, il y a la guérison. La chambre de la mort s'est vidée parce que les gens guérissaient. Il sortait de la chambre de la mort en bonne santé. Parce que Jésus était descendu là. Les anges ont dit,
Il vous est né un sauveur. Mais la différence cette fois-ci, c'est le Seigneur. Lui-même, il est descendu. Et quand Richard Rembrandt vivait ça, le Seigneur était descendu dans la chambre de la mort. Et tout le monde guérissait maintenant. Tout le monde sortait. C'est de ce salut-là que nous voulons aujourd'hui encore. Les anges ont dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Pourquoi les gens n'ont pas tué, n'ont pas pris Moïse? Pourquoi les parents ne l'ont pas livré? Parce qu'ils ont vu que l'enfant n'était pas normal. Il était glorieux. Alors, que fais-tu de Jésus aujourd'hui? Regarde Jésus. Quelqu'un qui est le Messie, le Seigneur, il naît dans une étable. Mais le jour de sa naissance, il y a une étoile qui bouge, qui montre que c'est le Seigneur qui naît. C'est le Seigneur lui-même qui vient. Toute une étoile bouge. Une étoile ne peut pas bouger, sortir des lois de la physique. Regarde Jésus. À l'âge de 12 ans, il est déjà au temple et il connaît toutes les Écritures. Il discute avec les docteurs de la loi. Mais quand il rentre, il est écrit qu'il était soumis à ses parents. Quelqu'un qui connaissait tout, mais est soumis à ses parents. Regarde Jésus. Quand il commence le travail de Dieu, il transforme l'eau en vin. Il sauve Zachée, un pécheur, un mauvais, un escroc. Il ressuscite la veuve de Naïn, le fils de la veuve de Naïn. Une femme qui souffrait de perte de sang le touche, elle est guérie instantanément. Il ressuscite Lazare alors qu'il était mort, ça faisait 4 jours. Il chasse les démons. Quelqu'un était possédé de 5000 démons. Il dormait dans les cimetières. Jésus chasse les démons. L'homme est libéré et vit normalement. Observe Jésus. On veut l'arrêter pour le tuer. Il s'échappe. Personne ne peut le toucher. Un jour même, on lui dit, mais il y a César qui te cherche, il y a Hérode qui te cherche. Je crois César, attention, il va t'arrêter. Oh, Jésus dit, allez dire à ce renard-là, j'ai 3 jours. Je bosse le premier, le deuxième, le troisième jour, je vais m'arrêter. Il veut dire par là, tant que je bosse selon la volonté de Dieu, personne ne peut m'arrêter. Mais dans le calcul de mon Père, il est prévu qu'un jour on m'arrêtera. Votre temps arrivera. Mais c'est dans le calcul de Dieu pour le salut de l'humanité. Et Jésus vient finir à la croix. À la différence de Moïse, Jésus a donné sa vie physiquement pour nous. Il a pris tous nos péchés. Sur lui, il a été crucifié. De sorte que nous puissions être libres. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que tu n'es plus obligé d'être dans l'esclavage de la maladie, esclavage du mal, quelle que soit la forme. Dans l'esclavage de l'injustice, il y a des gens qui se fâchent quand il y a l'injustice. Tu es au travail, tu es dans une équipe, on te fait des injustices. Je disais à quelqu'un, quand on te fait des injustices, on prend 90%, on te laisse 10%. Travaille bien dans les 10%. La gloire de Dieu va illuminer les 10%. Parce que le salut de Dieu est avec toi. Mais tout cela demande le salut de Dieu. C'est Jésus. Et Jésus est crucifié. Et il crie, tout est accompli, c'est fini. Et le troisième jour, il est ressuscité. Alors là, bien-aimé, c'est le sommet de tout. Parce que les gens qui se disent milliardaires, qui disent avoir tout, qui se disent avoir tout, ils souffrent de savoir qu'ils vont mourir un jour. Et c'est fini. Mais nous, nous savons que nous ressusciterons. C'est pourquoi les apôtres, les premiers chrétiens, quand Jésus est parti, ils se disaient bonjour en disant « Le Seigneur est ressuscité ». Et l'autre répondait « Il est vraiment ressuscité ». C'est-à-dire que nous n'avons plus à craindre cette terre. La souffrance est finie, la résurrection nous attend. C'est ça le salut de Dieu. Alors quand on observe tout ça, moi j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, mais à quoi ça sert d'être milliardaire? Je sais que tout cela va finir. Soyons pratiques. Je ne veux pas gaspiller ma vie pour quelque chose qui va finir dans 120 ans et perdre des milliards d'années. Soyons pratiques. Donc même quand tu es en forme, tu es riche, mais tu vas mourir et que tu saches que tu vas mourir un jour. Mais réfléchis. Et Jésus résout ce problème-là. Il dit, de la même manière que moi-même je suis ressuscité, je vous ressusciterai. Et vous vivrez avec moi au ciel. C'est le salut de Dieu. Un chrétien doit vivre le salut de Dieu. C'est pourquoi, quand les gens disent, on va faire quoi? Jésus dit, on vous prend une tunique, donnez l'autre. Aujourd'hui, les chrétiens tremblent devant les comptes bancaires. Ils tremblent devant l'argent. Non, bien-aimé, le salut de Dieu englobe tout ça. On a donné notre vie au Seigneur. On est en train de vivre pour le ciel. On fait tout selon l'Esprit qui est notre Sauveur que Dieu nous a envoyé. Il nous amène chaque jour à avoir une vie de puissance, de vérité et de réussite. Ce n'est pas les choses de la terre qui nous donnent la réussite parce que ça nous échappe à un moment donné. Reconnaissons, bien-aimés, qu'on souffre et appelons le salut de Dieu. Nous lisons dans Luc 23. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Car le salut est avec moi. Comme c'est écrit dans Apocalypse 7, le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Le salut de Dieu, c'est Jésus. Cette fois-ci, le Seigneur lui-même est descendu. Et il libère totalement. C'est pourquoi lui-même dit dans Jean 8, 36, si le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Parce que Moïse ne pouvait pas complètement libérer, même si c'était un sauveur. Il dit, cette fois-ci, un sauveur vous est donné, mais cette fois-ci, c'est le Seigneur. C'est lui-même, donc il n'y aura pas de reste. Donc la libération sera totale. La preuve, ils sont sortis d'Égypte, mais ils ont continué à murmurer, à vociférer, à gronder. Mais le Seigneur, s'il te libère, tu es libre complètement. Cet homme était crucifié comme le Seigneur. Mais il a observé. C'est ça notre prédication. Pourquoi on n'a pas tué Moïse? Parce que les parents ont observé. Ils ont compris que cet enfant était différent. Il était glorieux. Dieu venait de les visiter. On ne touche pas. Le voleur à la croix. Pourquoi il n'a pas injurié Jésus comme l'autre? Il a observé. Il a compris que ce ce condamné-là était différent. Bien-aimés, nous avons tous connu nos heures de méchanceté, d'orgueil, de refus de céder à Dieu. Mais le jour où j'ai observé, on m'a donné les évangiles, j'ai lu, j'ai compris que celui-là, Jésus, c'était la visitation de Dieu. C'est ainsi que Nicodème, il vient voir Jésus. Il dit, j'ai des problèmes. Je ne te fais pas confiance à 100%, mais, les miracles que tu fais et les discours que tu tiens montrent que tu viens du ciel. Quelqu'un ne peut pas faire ce que tu fais si Dieu ne l'a envoyé. Voilà. L'observation. Ils ont vu l'enfant, ils ont dit, ah, celui-là, on le livre pas aux Égyptiens. Et c'était leur salut. Bien-aimés, observons maintenant le Seigneur. Regarde le Seigneur, qui dans sa grandeur, dans sa gloire, il descend comme un humain simple. Ce décalage-là de descente, au fait, c'est plus que le décalage de ton salut. C'est-à-dire que toi, Jésus, est descendu plus bas encore que ton décalage pour monter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour que toi, tu ailles vers Dieu, il y a un écart. Mais il fallait que Jésus descende pour que toi, tu bondisses dans l'autre sens. Mais lui, maintenant, il est descendu plus bas pour faire monter tout le monde. Donc, c'est ça le salut de Dieu. Ça ne souffre pas de marchandage, de dire, je vais changer un tout petit peu. Je vais donner un peu. Non, c'est toute sa vie qu'il faut donner. C'est ainsi qu'on peut expérimenter ce salut-là. L'homme à la croix, bien-aimé, quelle honte de croire en quelqu'un qui est crucifié comme toi. Donc, en quelque sorte, cet homme-là s'est tué lui-même. Je crois que son voisin devait dire, mais il est fou, il croit un homme qui est crucifié comme nous. Mais il a observé, il a dit, ah, ce condamné est différent. Il n'a fait aucun mal. Il n'a fait aucun mal. Comment il se retrouve là alors? Il y a un problème. C'est que c'est un envoyé de Dieu. Ce qu'il est en train de subir est en relation avec sa mission divine. Amen. C'est pourquoi il dit, ben, quand tu reviens, reprends-moi. Parce que ce que tu fais là, ça ne peut être qu'en relation avec ta mission divine. Bien, mais quand tu observes le Seigneur, tu te dis, mais avec tous les miracles qu'il faisait, il pouvait devenir millionnaire. Il pouvait devenir milliardaire, se construire des châteaux, vivre avec une armée. Mais pourquoi il n'a pas fait tout ça? Parce qu'il avait une mission, c'est de te sauver. Donc tout ce manque-là, c'est ton salut. Mais pour bénéficier de ce salut, il faut reconnaître, comme le voleur à la croix, que toi-même tu as péché, toi-même tu es dans l'erreur. Il faut reconnaître que tu as échoué. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas bien ici. Sans le salut de Dieu, on est malheureux. Il faut le reconnaître. Job a dit ceci, autrefois, je t'entendais, mais maintenant, je te vois. Donc autrefois, Job était dans un petit salut. Il avait de beaux enfants. Il avait des richesses. Mais quand Dieu l'a brisé, il s'est rendu compte que ses enfants, ses richesses, c'était rien. Comparé à la présence de Dieu lui-même, comparé au salut de Dieu, il dit, avant, je te vois, je t'entendais, mais maintenant, ton salut est là. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il est écrit, le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus,
Luc 19, 10. Peu importe ton problème, le point commun, c'est quoi? C'est qu'on souffre sur terre. Le point commun, c'est que tu es dérangé. Si toi, tu n'es pas dérangé, moi, je suis dérangé par des choses. Et la condition pour expérimenter ce salut, c'est dire à Dieu ce qui te dérange. Le péché, l'orgueil, la mauvaise nature humaine, la peur du lendemain, l'égoïsme, l'avarice. Dis à Dieu, je suis perdu. Luc 19, 10, c'est clair. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Cette fois-ci, nous avons un sauveur différent des autres sauveurs parce que c'est Dieu lui-même, c'est le Messie, c'est le Seigneur. Paul a dit, quel dommage de rater un si grand salut. Pourquoi dit un si grand salut? Parce qu'il y a eu d'autres saluts avant. Les gens sont sortis d'Égypte. David a libéré les gens de Goliath. Il y a eu d'autres saluts avant. Gédéon a libéré. Mais maintenant, Paul dit, ce salut-là, il est différent parce qu'il est total et définitif. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La balle est dans notre camp. Qu'est-ce que nous disons au Seigneur? Tu te crois heureux, tu te trompes par rapport à ce que tu as. Au fait, c'est ton égoïsme et ton aveuglement qui te fait croire que tu es bien, mais tu n'es pas bien. Et parfois même, tu te sens mal, mais tu vas chercher autre chose pour équilibrer, mais ce mal-là va revenir toujours. Le Seigneur veut le salut total. Il veut nous donner le salut total. Aujourd'hui encore, cet homme a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, nous allons dire ça au Seigneur. Seigneur, je ne suis pas bien sur la terre. Je ne suis pas bien parce que tel péché me ronge. Mais Seigneur, tu es le sauveur, c'est-à-dire le sauveur qui est à la fois Messie et Seigneur. C'est pourquoi on te dit le sauveur. Avant, c'était un sauveur, maintenant c'est le sauveur, parce que c'est le sauveur total, et puis c'est fini. Je veux que tu me sauves, Seigneur. Je veux que tu changes les choses. Je veux voir ton salut dans ma famille. Je veux voir ton salut dans mon corps malade. Je veux voir ton salut dans mon langage. Je veux voir ton salut dans ma foi, que je crois en toi réellement. Je veux voir ton salut dans mes objectifs. Je veux commencer à voir des objectifs du ciel. Nous allons demander au Seigneur la manifestation de son salut. Mais, plus que cela, nous allons remercier le Seigneur de nous avoir envoyé cette fois-ci, un sauveur qui est lui-même. Lui dire merci pour cela. Seigneur, nous te remercions. Car nous étions dans les ténèbres. Comme c'est écrit dans Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans l'obscurité voit une grande lumière. Seigneur, c'est toi la grande lumière. Nous, le peuple qui marchait dans le découragement. Seigneur, les enfants d'Israël marchaient dans le découragement, mais le jour où Moïse est né, ils ont dit non, celui-ci ne meurt pas. Et nous aussi, nous marchions dans le découragement, nous marchions dans la souffrance, dans le questionnement. Mais lorsque nous regardons au fait que tu es ressuscité,
Nous disons, c'est fini, je ne marche plus dans la défaite. Mon Seigneur est ressuscité. Lorsque nous regardons au fait que Zachée, qui était pécheur à fond, a été sauvé, nous disons que c'est fini. Lorsque nous voyons que celui qui était possédé de 5000 démons a été guéri, délivré instantanément, nous disons que c'est fini. Lorsque nous regardons à Jean 19, 30, tout est accompli, tu dis à la croix, nous disons que c'est fini. Seigneur, nous venons te dire que, étant perdus, nous avons besoin maintenant que tu nous reconstruises. Tu nous fasses quitter le mal, Seigneur. Tu nous fasses quitter le mal. Nous voulons vivre ton salut sur la terre. Nous voulons vivre ton salut dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de te manifester. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons dire, pour ceux qui le veulent, nous allons faire la prière de demander le salut du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'avoue que je suis faible. Je suis perdu. Je suis mécontent de moi et de mon environnement. Je suis mécontent du péché. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Je veux voir ton salut dans ma vie et autour de moi. Merci Jésus d'intervenir dans ta puissance et dans ton amour pour changer mon avenir, me faire passer des ténèbres à ta lumière et qu'autour de moi, ça soit le cas. Je te donne ma vie, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Merci Jésus. Amen.